Marc et Isabelle sont avec moi en studio. Sur le pot, vous en pensez quoi de ces réglementations très restrictives-là?
Moi, je comprends pas comment on ne réussit pas à avoir une réglementation plus cohérente entre les différentes municipalités. Comment ça se fait que chaque municipalité aura une réglementation différente? Puis je les trouve particulièrement restrictives. Puis je me demande tout le temps, OK, comment est-ce que... Oui, il faut adopter des règlements. Il faut faire face au fait que le pot va devenir légal. Mais en même temps, comment ces règlements-là vont être appliqués? Puis c'est quoi les bénéfices réels d'une réglementation aussi stricte par rapport aux efforts qu'il va falloir mettre pour les appliquer? Puis on protège qui de quoi, finalement? Tu sais, en réalité, tu l'as dit pendant l'entrevue, j'ai pas l'impression qu'entre le 16 puis le 17, il va soudainement naître des consommateurs de potes tout partout autour de nous. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a déjà qui se consomment dans la rue. Après ça, l'autre chose, c'est comment est-ce qu'on va faire la distinction entre ceux qui utilisent une vapoteuse pour fumer une cigarette alors qu'il y en a qui mettent du pot dedans.
T'sais, à l'odeur.
Ben, c'est ça. Mais la question de la faisabilité de mettre en application ces règlements-là. Puis, je comprends la perspective un peu des élus municipaux qui veulent encadrer, prévenir les débordements. Mais là, faut pas s'imaginer qu'on va devenir stone en marchant dans la rue non plus. Là.
Et l'autre affaire, Marc, là, ça n'en revient pas au fédéral à un moment donné. Regarde, je comprends les impacts que ça peut avoir. Mais en bout de ligne, tu dois pas dire « Oui, mais écoute, c'est le gouvernement que tu as élu qui l'a choisi. » C'est parce que tu légalises, mais tu ne légalises pas. Tu n'auras pas le droit de le fumer nulle part.
Oui, ben c'est ça. Ben c'est qu'à un moment donné, c'est toute la question des paliers de gouvernement puis des réglementations. C'est dans la cour de qui on s'en va jouer. Mm-hmm. Et c'est normal. C'est quelque chose de nouveau. Hein. Puis c'est quelque chose où on est en terrain un peu inconnu.
C'est sûr.
Alors, il y a des craintes. On va y aller par cabotage au début.
C'est correct, les municipalités, c'est leur responsabilité d'adopter puis de déployer cette réglementation-là. En même temps, je trouve que des fois, du côté des municipalités, il y a peut-être un souhait de tirer un peu profit de la crainte des gens, puis limite populisme, plutôt qu'avoir une réglementation raisonnable, pragmatique, facile à appliquer, puis qui tient compte de l'avenir.
Ben, je pense qu'on y va plus restrictif pour être capable de l'accommoder, parce que plus t'en demandes, ben, tu vas y aller au juste milieu. Mais moi, je commencerai pas à fumer le 17. Là.
Ben, moi non plus.
Nos policiers ne se mettront pas à distribuer des étiquettes de consommation.
Ouais, ils vont commencer à y aller leur jugement, comme ils faisaient déjà. On le mentionnait, là, mais à la fête du Lac des Nations, là, écoute, vous la fréquentez, là, ça ne s'est jamais fumé du pot.
Comme l'a dit notre ami Martin Pelletier, GBS.
Oui, gros bon sens. Ah oui, tout à fait. Hey, écoute, j'ai vu un show de Jean Leloup là-bas, il se passait des barres aux chaises, comme lui dit à 60$ la pof. Là. T'sais, écoute, j'ai pas vu un policier interrompre personne là-dessus. La presse lançait ce matin une carte des dons aux partis politiques par circonscription. Ce qui est trippant, c'est quand on regarde chez nous, on a des données qui sont assez particulières.
Fascinant.
Dans Sherbrooke, le Parti libéral du Québec a ramassé pas loin de 15 000 $. Le PQ, pas loin de 14 000. Québec solidaire, 12 000.
Oui.
Et la CAQ, on est presque à 5 000.
T'sais, première affaire qu'il faut remarquer, c'est que ça, là, c'est dans le contexte des nouvelles règles sur le financement des partis politiques qui limitent à 100$ par année
par personne,
les dons par personne. 200$ en année électorale, parce que dans une année électorale, tu as droit à ton don régulier et tu as droit de donner un autre 100$ pour la campagne électorale.
Il n'y a pas de don d'entreprise, là.
Non, évidemment. C'est que individuel. Les gens qui ont des statuts d'électeurs qui ont le droit de donner, et ça depuis les années 80 au Québec. Donc, ça fait longtemps qu'on a restreint ça. C'est des dons individuels.
Mais quoi, c'est l'aspect légal et illégal, là, ça s'est fait dans le passé quand même, l'entreprise qui donne, je te rembourse.
Mais ici, je pense pas qu'on a compilé l'illégal.
Mais... hey, méchante baisse, hein? Non, sérieusement, méchante baisse, là.
C'est plus ce que c'était.
En même temps, il y a une contrepartie. Dans la réforme qui a été menée par Bernard Drinville à l'époque, il y a une contrepartie publique. Là, donc, il y a un plus grand remboursement de dépenses ou une plus grande contribution publique en fonction du résultat des élections précédentes.
Moi, ce qui me saute aux yeux, Steve, quand je regarde ces chiffres-là, c'est, bon, premièrement, quand tu regardes Sherbrooke, la faiblesse de la CAQ, là, qui termine en queue de peloton puis solide, mais aussi la force du PLQ, parce que depuis des mois, on dit « Ah, le parti est en train d'un sondage, Philippe Couillard va se faire battre, c'est fini, les carottes sont cuites, François Legault s'en vient, tassez-vous, le bulldozer approche. » Et tu vois que, tu sais, moi je regarde, bon, Sherbrooke, bon, PLQ est en avance, pas par beaucoup sur le PQ, mais regarde de l'autre côté de la rivière, là, dans Saint-François, écoute, 15 000 $ pour le PLQ, suivi au plus proche de Québec solidaire à 7 900 $.
C'est là que tu sens la machine aussi. Là.
Ben, fait... Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que dans nos circonscriptions, nos 5 circonscriptions en Estrie, c'est le PLQ qui est en avance, alors qu'au Québec, c'est le PQ qui ramasse le plus de dons. Donc ça, c'est quand même intéressant. On le sait, hein, l'Estrie, c'était un bastion libéral depuis longtemps. Ça va peut-être changer, c'est ce qui est excitant à regarder. Sinon, il y a aussi l'excellent score de QS dans... dans Sherbrooke, là, qui n'est pas...
Ouais, mais on est une ville universitaire. Québec solidaire, les villes universitaires. On l'a vu au débat à l'université. Christine Labrie avait un auditoire acquis là-bas. Mm-hmm. Donc, quand on est une ville universitaire, il ne faut pas oublier, on a cégep, université, etc. Donc,
ouais, puis j'ai l'impression que la CAQ, ça peut aussi s'expliquer par le temps qu'ils ont mis à choisir leur candidat. T'sais, on entendait... Les rumeurs à propos de la candidature de Bruno Vachon ont circulé pendant longtemps, mais ça leur a pris du temps à choisir son candidat. Donc
mais ça
témoigne qu'ils n'ont pas d'organisation. Ben, il n'y a pas d'organisation.
Hey, tu n'es pas supposé ramasser même pas la moitié de Québec solidaire.
Non, non. Puis écoute, on s'est entendu que quand tu t'occupes d'un parti politique comme la CAQ, qui est appelé à devenir, selon les sondages des derniers mois puis jusqu'à tout récemment, un gouvernement potentiellement majoritaire, me semble que tu dois avoir quelqu'un dans ton équipe qui va ramasser des fonds. Et si tu n'es pas capable de les ramasser, c'est soit parce que tu n'as pas l'organisation ou parce que le monde ne veut pas te donner. Mais dans les deux cas, tu es dans le trouble.
On s'entend-tu que l'Estrie n'était vraiment pas dans les régions ciblées il y a quelques mois même pour la CAQ? Si la CAQ fait un bon score ici, ça va être l'effet d'une vague quand même.
Je suis d'accord avec
là.
Toi, Isabelle, mais regarde Richemont, là, la vedette André Bachand, là, qui est un ancien député, ancien maire, un gars qui a une notoriété à tout casser selon certains. Ben, dans Richemont, il est en quatrième place.
Et amener l'aspect, puis tu me parles de candidat, là, moi, je peux pas m'empêcher de regarder Offord. Tu vois-tu que Gilles Bélanger est un vrai candidat vedette?
Oui.
Il ramasse plus d'argent pour la CAQ dans Offord que ce qu'on ramasse dans Sherbrooke, que ce qu'on ramasse dans Richemont, que ce qu'on ramasse dans Saint-François, que ce qu'on ramasse dans Mégantic.
Mais c'est une vedette. Gilles Bélanger est une vedette. C'est un gars qui est aguerri dans son domaine. Mais moi, je regarde...
Il y a un fort réseau dans le milieu des affaires,
absolument. Et ça devrait se traduire. Mais d'autre part, Guy Mador, qui est un candidat libéral, là, puis il y a des chances de devenir député, là, disons, comment ça va virer.
Ben oui.
Mais c'est une force tranquille, ce monsieur-là. Moi, je le suis depuis le début sur son Facebook, là. Puis je le regarde, là, c'est une force tranquille, il est présent partout. C'est pas un tribun, c'est pas un gars qui va devenir premier ministre, puis c'est pas un gars qui va devenir un ministre senior, j'ai pas l'impression. Mais c'est un gars de terrain. Et Offord ont une histoire de gars de terrain. Ils ont eu Robert Benoît avant ça, qui en était tout un, là.
Oui.
Donc, tu sais, ça parle beaucoup. Les chiffres, c'est pas la seule chose à regarder en termes de financement, là, mais ça parle beaucoup en termes d'organisation, en termes aussi de comment les gens du milieu... perçoivent ces candidatures-là. Parce que quand tu te fais un don de 100$ à un parti politique, là, tu t'affiches.
Dans Mégantic aussi, on en parle peu, hein, mais ce qui explique peut-être la bonne performance du PLQ en Estrie, en fait, ce qui explique assurément la bonne performance du PLQ en Estrie par rapport au reste du Québec, c'est le fait qu'on a des députés sortants. À Mégantic, pourtant, ça ne s'est pas traduit. T'sais, le PLQ a ramassé 5 700 par rapport à 5 000 pour le PQ. Pourtant, on a un député libéral sortant, là, Ghislain Bolduc, il aurait dû avoir une meilleure performance en termes de financement dans Mégantic que ça. Là, ça, c'est un peu surprenant.
Et si on parle de chiffres, là, la candidate Christine Labrie de Québec solidaire dans Sherbrooke, à l'exception de Saint-François, si tu la places dans tous les autres comtés, là, ce serait elle qui a ramassé le plus d'argent.
Mais ouais,
c'est une superstar du financement.
non, mais quand même. T'sais.
En même temps, c'est une fille articulée. Elle a une expérience électorale municipale.
Oui.
QS l'a pris.
Aguerri.
L'a mis en vedette, en a fait sa porte-parole en matière
puis,
de...
Puis quel que soit le résultat le 1er octobre, Christine Labrie va demeurer dans le paysage politique. Ça se voit. Elle a une passion. Elle a un charisme de ce côté-là. Donc, puis avoir des chiffres comme ça, là, moi, je pense que les gens de Québec solidaire vont vouloir la garder avec eux autres, ça c'est garanti.
Jeune femme, autour de 30 ans, 3 enfants, tout mon respect.
Oui, articulé.
Absolument.
Articulé.
Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. On avait plein d'autres sujets, mais écoute, on en reparlera demain. C'est bon signe. C'est signe que c'est une commission animée.
Ah oui, et passionnante. Hey, n'oubliez pas le débat ce midi, de midi à 2h.
Dans Midi Actualité.
Et à partir de 14h15, on va commenter avec Martin Pelletier jusqu'à 15h. Et le vidéo pour nos auditeurs qui sont les adeptes de Facebook, sera sur Facebook Live. Alors, hurrah, vous allez pouvoir voir la bête de vos candidats.
Sur notre page Facebook du 177. Merci à vous deux. On vous écoute ce midi, évidemment.
Bonne journée.
À ce midi. Bye-bye.